c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Alors, vous aimez les jeux de développement, de civilisation, mais vous trouvez que c'est long, parfois 2 heures, parfois 3 heures. Aujourd'hui, je vous propose un jeu de civilisation qui se joue en 30 minutes, issu d'un Kickstarter. Age of Civilization arrive en France dans une toute petite boîte super bien agencée et super bien remplie grâce à Pizzy Games, un jeu de Jeffrey CCH. Alors, le but du jeu est simple, hein, vous allez pendant 6 tours de jeu créer votre propre civilisation. Au premier tour, chaque joueur choisit une carte civilisation au sein de celle disponible et prend le nombre de jetons ouvriers indiqués sur celle-ci. Il prend également une carte technologie qui devra faire évoluer en cours de partie. Exemple, je prends la civilisation Byzance. Je récupère 4 ouvriers. Chaque carte civilisation a des capacités, une principale et une héritée. La principale de Byzance, si vous avez la plus grande force militaire, vous payez une pièce de moins lorsque vous faites l'action culture. Alors à son tour, chaque joueur va assigner ses ouvriers à des tâches culture, chasse, pêche, afin de gagner des ressources ou de l'or. Vous pourrez aussi acheter des merveilles et également gagner de la technologie pour au final, car c'est quand même le but, hein, gagner des points de victoire. À chaque tour, vous aurez 6 actions possibles. Ces actions vont changer en cours de partie. En gros, à chaque tour, vous allez avoir accès à une nouvelle action et vous allez perdre une action que vous ne pourrez plus faire jusqu'à la fin de la partie. Le système de gestion des actions est vraiment original. Au-dessus de la ligne de carte action est placé un plateau qui en sélectionne 3. Au début, on le met au-dessus des 3 premières, puis à chaque tour, il est déplacé vers la droite d'un cran. Les 3 cartes sélectionnées sont les actions disponibles pour ce tour. Au deuxième tour, la première carte n'est plus disponible et ainsi de suite. Il faut donc bien réfléchir comment mettre en place votre stratégie, car des actions seront donc limitées. Il y a quand même 3 actions disponibles tout le temps. La construction de merveilles, les merveilles sont posées en début de partie sur la table, 3 cartes merveilles plus une par joueur sont tirées aléatoirement. Attention, les cartes ne sont jamais remplacées, vous pouvez les acquérir moyennant 7 pièces d'or, mais elles vous rapportent des points de victoire. Autre action, la recherche avec l'acquisition de nouvelles technologies. Et dernière action disponible tout le temps, c'est l'asservissement. Vous gagnez de l'or, mais comme la construction de la merveille, pour cette action, vous perdez votre ouvrier définitivement. Mais alors, comment on joue? Eh bien déjà, on choisit une carte civilisation. On récupère les ouvriers indiqués sur cette carte. Il y a un pouvoir actif et un pouvoir passif. Fin. Ensuite, vous allez poser vos ouvriers sur les cartes actions. Certaines, comme la recherche, sont chères, mais ça permet de développer la technologie. Vous n'êtes pas limité au nombre d'actions que vous faites, si vous pouvez le faire. Certains de vos ouvriers seront aussi sacrifiés en fin de tour, et vous ne pourrez plus les récupérer, ils vont dans la réserve. Les autres vous reviennent, et c'est au tour du joueur suivant de faire pareil. À la place, si vous ne pouvez pas poser, ou vous ne voulez pas poser d'ouvriers, vous pouvez vous reposer. Bah oui, ça fait du bien. Dans ce cas, vous gagnez immédiatement 2 pièces d'or, plus un ouvrier, dans la limite de 4. À la fin du tour, eh bien les actions sont libérées et vous récupérez vos ouvriers sauf ceux qui ont été sacrifiés. Puis on avance les actions, parfois il peut y avoir des conflits, dans ce cas les joueurs avec le moins de force militaire perdent un ouvrier dans la bataille. Au début de son prochain tour, un joueur peut également passer sa civilisation active en déclin pour en choisir une autre. Ça fait penser forcément à Small World, car s'il perd bien évidemment les ouvriers et le pouvoir spécial de la civilisation déclinée, il en garde par contre tout ce qui a été acquis. La civilisation en déclin apporte une capacité héritée en bas de la carte qui va s'ajouter au pouvoir de votre nouvelle civilisation. Mais s'il préfère garder sa civilisation actuelle, dans ce cas, il annexe une autre civilisation qui lui donnera un bonus, mais qui ne fait pas perdre le pouvoir principal de sa civilisation actuelle, car il va la placer en dessous. Il y a 48 civilisations dans le jeu, ce qui laisse une grande rejouabilité. Choisir sa civilisation au bon moment lorsqu'elle pourra vous apporter un maximum en fonction des actions actuelles et futures est primordial dans ce jeu. Il existe de nombreuses variantes que je vous laisserai découvrir et un mode solo avec divers scénarios. Vous cherchez un jeu de civilisation simplifié, alors ne cherchez plus trop longtemps. Le voilà, il s'appelle Age of Civilization. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Vianney de Terre de Jeu à Rennes pour parler d'un jeu un peu plus ancien, ça s'appelle Rétroludique.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et vous le savez, le jeudi, c'est Rétroludique avec Vianney. Bonjour Vianney.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et tous.
Alors je viens de parler d'un jeu qui s'appelle Age of Civilization et je crois qu'on va aller dans une civilisation, mais vraiment au début, hein.
Et ouais, carrément, on va causer d'un jeu de Peter Rostemeyer qui, effectivement, pourrait être une photographie d'une civilisation.
Oui, la préhistoire.
Exactement, avec un jeu qui s'appelle Paléo,
ouais.
Qui avait été nommé, donc il y a 2 ans, puisque c'est rétro-ludique, on revient derrière, qui avait été nommé à l'Asdor Expert,
ouais.
Ça faisait partie des meilleurs jeux disons pour les joueurs un peu plus aguerris. Moi j'aime pas trop le terme d'expert qui est utilisé par l'Asdor parce que c'est un peu, ça fait genre oh là là, faut être un génie pour pouvoir jouer à ça. Ou ça n'est réservé que aux gens qui connaissent très bien. Paléo, grosso modo, c'est accessible à des gens qui ont, c'est un niveau qui est à celui de Pandémique. Donc on est
d'accord,
sur un jeu effectivement qui se sort pas avec des gens qui ne font pas du tout de jeux de société ou qui ont joué co ou no, ça va être compliqué. Mais dès qu'on a pratiqué un peu quelques jeux de société modernes, comme un peu de King Domino, un peu d'Aventurier du Rail, un peu d'Azul, et qu'on a envie d'aller chercher un peu plus loin, c'est tout à fait jouable. C'est vraiment pas complexe.
Alors c'est un jeu que je connais pas.
Et ah ouais, et bah écoute, moi ça fait partie des jeux à titre personnel, c'est pas un jeu qui m'a enflammé,
ouais.
Mais c'est un jeu qui a beaucoup plu à beaucoup de gens. Moi je le conseille très souvent. Que c'est un jeu qui a plusieurs particularités. On commence juste par dire rapidement ce que c'est. C'est un jeu coopératif dans lequel on va guider en fait des tribus d'hommes et femmes préhistoriques. Donc à cette époque-là, on survit, on va chercher du bois, de la pierre, on invente des outils parce qu'on a des éclairs de génie.
Ouais.
Et puis on chasse le mammouth, on chasse des trucs. Et puis il y a des trucs qui nous attaquent. Voilà. Donc ça c'est le quotidien. Tout le jeu va s'articuler là-dessus avec un système de prise de risque. Je veux aller dans la forêt pour chercher du bois, mais attention, dans la forêt, je peux tomber sur des animaux sauvages. Donc voilà, avec un petit côté du coup hasard. On ne sait jamais trop ce qui va se passer quand on va quelque part. On ne le découvrira que quand on a fait ce fameux choix et cette prise de risque. Ça, c'est assez rigolo. C'est un vrai côté thématique.
D'accord.
Et c'est une des originalités très fortes de Paléo. En fait, le jeu n'a aucun texte sur le matériel. Et pourtant, c'est un jeu qui va te raconter véritablement quelque chose à chaque partie. Tu vas t'imaginer la petite histoire qui est en train de se passer pour tes hommes et tes femmes préhistoriques. La fameuse rencontre avec un loup, la fameuse rencontre avec un accident, un glissement de terrain, un incendie, des choses comme ça.
D'accord.
qui vont générer des espèces de petites situations rigolotes et qui vont te créer ta partie, ta propre partie. Il n'y a pas d'ordre dans lequel les cartes doivent sortir, c'est totalement aléatoire. Et du coup, ça génère vraiment quelque chose de fort dans ce que ça raconte. Ça, c'est vraiment très intelligent. Et c'est servi par un système assez original. En fait, quand tu commences une partie de Paléo, tu sais que tu dois gagner en peignant des peintures dans ta grotte.
D'accord.
On essaie de faire une fresque et la fresque, si elle est complète, on a gagné.
Ouais.
Mais quand tu commences une partie de Paléo, tu ne sais pas du tout comment tu vas pouvoir peindre cette fresque.
Okay.
Et en fait, c'est au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure de l'exploration de ce qui se trouve autour de notre campement et tout ça, qu'on va pouvoir identifier des endroits où, ah tiens, ça y est, on sait comment faire une partie de la fresque, c'est en faisant ça. Du coup, pour faire ça, faudrait qu'on aille d'abord chercher du bois, ensuite des choses comme ça, qu'est-ce qui nous manque pour réussir à le faire. Et du coup, il y a un côté assez chouette dans la découverte un petit peu du scénario, qui va encore aider justement servir ce principe de narration sans texte, où on va vraiment se raconter notre petite histoire. C'est vraiment très original de ce point de vue-là, il y a quasiment aucun autre jeu qui fait ça. La plupart des jeux qui sont forts en narration ou forts en thématique utilisent à 95% du temps du texte comme support de narration.
Ouais. Là, il n'y a pas de texte.
Pardon ?
Là, il n'y a pas de texte, hein, c'est bien ça.
Tout. Non, zéro. Il n'y a pas de texte, c'est que de l'iconographie. Et du coup, il y a vraiment un truc qui est très intéressant parce que tous les autres, que ce soit les plus anciens, Betrayal at House on the Hill, les livres dont vous êtes le héros, des plus récents comme toute la gamme de Play That Games avec Mice and Mystics, des choses comme ça, ou même Ardor ou Robin des Bois, des jeux, les jeux d'aventure, tout le temps, ils utilisent du texte, et Paléo a cette force et cette magie de pas te forcer à te raconter, à raconter une histoire précise, mais à te raconter l'histoire que tu veux. Moi je le compare du coup souvent à ce que provoque le jeu vidéo en monde ouvert quand on fait du jeu vidéo par rapport à du jeu vidéo scénarisé où le plaisir des joueurs et des joueuses vient de l'expérience qu'on fait du jeu et pas de ce que le jeu doit nous raconter. Donc ça c'est très très chouette, ça plaira du coup peut-être à beaucoup de gens. Moi c'est justement pour ça que je n'apprécie pas à titre perso, parce que moi j'aime bien quand on me raconte une histoire et pas quand je dois me raconter une histoire, mais ça c'est très subjectif et très personnel, et c'est ma manière de traverser les jeux et les œuvres narratives. Mais c'est vraiment excellent et c'est une proposition très très différente. Ça avait pas gagné l'Asdor Expert parce que malheureusement il est tombé l'année de The Crew qui est un bijou
de toute façon.
Un autre genre, mais c'est vraiment un jeu à retenir et il avait été nommé à très juste titre.
Je me demande s'il a pas gagné un prix quand même.
Ah, c'est tout à fait possible qu'il ait gagné d'autres prix. Ouais,
il n'a pas gagné le Spiel.
Il a peut-être gagné le Kenner Spiel.
Mais oui, bien ce qui me semble. Ouais, il a gagné le Kenner Spiel.
C'est carrément. C'est tout à fait, à mon avis, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, la même année, on en parle rapidos, nommé à l'Asdor Expert, il y avait aussi un jeu donc, de Hjalmar Ach et Lorenzo Silva, qui est Le Dilemme du Roi.
Oui. J'ai pas joué non plus.
Et écoute, le truc c'est que moi je voulais en parler un petit peu, mais je m'étayerai pas dessus parce que moi non plus je n'ai pas joué. Donc je vais pas rentrer dans voilà dans un retour de sensation alors que j'ai pas joué, mais je voulais en parler aussi rapide parce que pour moi ça fait partie des jeux qui ont marqué l'année où il est sorti. Moi, oui. J'y ai pas joué parce que c'est un jeu qui se joue en campagne,
c'est
en compétition.
Et on était en plein confinement.
Une quinzaine ou une vingtaine de parties. Et c'est très compliqué pour moi dans mon quotidien d'organiser ce genre de truc.
Oui, et puis c'est surtout qu'on était en plein confinement, donc c'était compliqué d'avoir des amis avec qui tu allais jouer tout le temps, puisqu'il faut jouer avec les mêmes personnes. Hein. C'est le but.
Carrément. C'est effectivement un jeu en campagne avec les mêmes personnes. Après, j'aurais pu le faire après, tu vois, voilà. Et pour moi, c'est compliqué à faire. Mais le Dilemme du Roi fait partie, justement, puisqu'on parle de narration et de manière différente de narrer, le Dilemme du Roi amène vraiment quelque chose au niveau du jeu de société sur l'aspect narratif, puisque c'est donc un jeu en campagne où l'histoire se suit partie après partie. Et il y a un système donc de préparation-paiement sur la narration dans le jeu qui est assez grandiose et très peu vu, ou en tout cas pas du tout avec cette intensité-là dans le jeu de société jusqu'ici,
ouais.
Où en fait, il va se passer des événements pendant une partie. On va gérer quelque chose, une histoire, je vais donner un exemple bidon. Il y a des villageois qui débarquent dans notre ville en nombre, en masse, ils fuient un envahisseur, machin. Comment est-ce qu'on gère l'arrivée de ces réfugiés, par exemple, voilà. Et du coup, on va gérer toute la partie là-dessus, et la partie va se terminer, on va marquer nos points et machin. Et peut-être que cet événement va induire, en fonction de la manière dont on l'a géré, quelque chose derrière de différent selon les choix qu'on fait. Et
d'accord,
ça...
Ouais.
C'est très intelligent parce que c'est quelque chose qui est une narration en fait binaire de livre dont vous êtes le héros, de je veux aller à gauche ou à droite, sauf que là on te dit pas est-ce que ça va avoir un impact, et tu ne sais jamais s'il va y en avoir un, tu t'en doutes, tu le supputes, et c'est même pour ça que tu peux faire des choix en fonction, mais le jeu voilà te tend pas la main en disant il va se passer ci ou il va se passer ça. Et c'est un jeu qui est hyper prenant de ce point de vue-là. Moi, j'en ai beaucoup parlé avec pas mal de gens quand on fait plusieurs parties. Mon copain Simon du passe-temps a fait, je crois, 3 boîtes. Il l'a fait 3 fois, je crois.
Mais il dort pas, Simon.
Non, il dort jamais. Ouais. Et ça fait partie des gens avec lesquels j'en ai parlé. Et c'est très enthousiasmant. Moi, j'ai eu beaucoup de retours. Ça, par contre, c'est un jeu expert pour moi. Là, faut vraiment être avec des gens habitués aux jeux de société, rodés. Sur quelque chose qui va, en plus, à chaque partie, potentiellement changer en termes de règles, tout ça. Donc là, on est sur quelque chose de velu. Mais je voulais en parler rapidement, parce que même sans avoir joué, je trouve que ça fait partie des jeux dont il faut parler à un moment, parce que c'est des marqueurs, un peu, de ce qui se fait dans l'histoire du jeu de société. Et je pense qu'il y aura un avant et un après le Dilemme du Roi sur la manière dont on gère la narration dans les jeux de société.
Ouais, et puis je crois que le Dilemme du Roi avait été nommé au Spiel, là, en même temps de The Crew. Donc... Effectivement, là, c'était plus compliqué pour tous les jeux qui ont été face à The Crew, de toute façon.
Oui, et puis en plus, après, ce qui est bâtard avec les prix, entre guillemets, c'est qu'on compare une carotte et une chaussette. Hein. The Crew et Dilemme du Roi, c'est véritablement absolument pas la même chose. Après, c'est le jeu des prix, c'est ça qui est rigolo. Mais pour l'instant, tel que les prix sont organisés dans les jeux de société, dans la majorité des prix majeurs, comme il n'y a pas de catégorie en fonction du type de jeu,
ouais.
On se retrouve à comparer un jeu de pli accessible à peu près tout le monde qui a déjà joué à la belote et au tarot avec un jeu qui se joue en campagne de 20 parties d'une heure chacune qui va évoluer au fur et à mesure. Rien à voir, quoi.
Ah non, ça n'a rien à voir. Eh ben, merci beaucoup, Vianney. Exceptionnellement, on se retrouve mardi et pas jeudi.
Ouais.
Puisque jeudi, je serai avec l'auteur de Paquet Chips, Mathieu Aubert. L'un des auteurs, hein, parce qu'il y a Théo Rivière aussi, forcément.
Oui, Paquet Chips.
Alors, ça donne quoi, Paquet Chips, chez toi ?
Eh ben, écoute, ça vient à peine de démarrer, donc dur à dire.
Ouais.
Pareil, après, c'est toujours pareil, les sensibilités, tout ça. C'est un jeu qui fonctionne super bien dans la méca, parce que c'est très efficace, c'est le principe du loto. Hein,
ouais,
loto un petit peu plus survitaminé. Voilà. Après, nous, dans l'équipe, on n'a pas été plus que ça enthousiasmés, donc c'est plus compliqué d'aller pousser un produit sur lequel nous, on est pas super enthousiastes. Pour moi, il manque une touche de take that, de jeu d'enfoiré dedans, où on peut un peu pourrir les autres. Là,
ah
c'est
oui.
Très chacun dans son coin. Et du coup, pour moi, il manque une petite touche d'interaction pour amener le jeu sur un cran vraiment d'universalité. Là, je trouve qu'il y a trop de clients qui me disent dans les jeux de société qu'ils aiment savoir qu'ils jouent avec d'autres gens.
Mm.
Et là, dans Paquet Chips, si on est tout seul ou 50, ça
ne
change rien.
Oui, oui, chacun fait son truc, quoi. Très
et
bien.
Ça n'enlève rien le fait que la mécanique est géniale.
Ouais. Merci beaucoup, Vianney. On se retrouve donc mardi.
Ouais, à mardi, bonne journée.
Salut, Vianney.